Oui, bonjour Jean-Phi. En effet, je suis actuellement en effet au parc diocésain qui accueillera toute la journée de 10h à 16h cette journée mondiale des réfugiés. Ça se passe du côté de Gap et puis au gré de cette émission délocalisée d'Alpe 1 de 10h à 12h, eh bien nous pourrons accueillir des responsables du CADA, du CPH, d'Agir au sein de France Terre des Îles, des personnes qui pourront nous parler de leur mission. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Monseigneur Xavier Mal. Bonjour.
Bonjour.
Évêque du diocèse de Gap-en-Brun, vous venez de publier Ces exilés qui passent par nos montagnes. J'ai eu le plaisir de le lire, de le découvrir et de découvrir aussi cette facette de vous que je ne connaissais pas. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'on se rencontre. Cette facette de vous où vous expliquez que, en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de foi, vous êtes dans l'amour de tous, mais qu'avant de venir sur Gap, avant de venir sur Briançon, vous n'aviez pas cette opinion, cette idée-là des personnes exilées. Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé.
C'est que je n'en avais jamais rencontré. Et donc, je ne lisais simplement que la presse, j'écoutais la radio. Et donc, je n'avais jamais fait cette rencontre à hauteur d'homme. Et c'est ça qui change tout, en réalité, de se rendre compte que ce sont d'abord des personnes. C'est pour ça que le titre que j'ai choisi, c'est le titre d'exilé. Parce qu'on parle des migrants, mais quand c'est ça, migrants, on associe l'adjectif économique. Ou alors on parle de réfugiés, mais ça, c'est un statut juridique. Et donc, il me semble que le vrai terme, ce sont des exilés. Ils sont tous exilés de leur pays, de leur famille. Et donc, j'ai eu, de par ma mission ici, en arrivant à Gap, parce qu'auparavant, j'étais en Touraine. Mmh. Alors, il y en a quelques-uns qui arrivent, puisqu'ils sont répartis après dans toute la France, mais ils n'étaient pas dans ma paroisse rurale où j'étais curé.
Oui. Il y avait une certaine forme de crainte chez les paroissiens que vous rencontriez à cette époque.
Oui, et puis chez moi aussi, hein, pour le dire clairement. J'avais été frappé, j'avais fait mes six ans d'études de théologie à Rome. Et en rentrant de Rome, j'avais vu l'évolution, par exemple, de l'islam avec la multiplication des voiles. Ça m'avait frappé au bout de 6 ans de rentrer à Tours et de voir la multiplication des voiles. Et donc, j'avais aussi les mêmes craintes qu'ont nos concitoyens un peu partout en France. Donc, je comprends cette crainte, mais il s'agit de dépasser cette crainte.
Ouais. Alors, bien évidemment, dans ce livre, vous parlez énormément de cette rencontre avec le pape, c'était en 2023 à Marseille, où vous avez justement parlé avec lui des migrants et vous lui avez justement dit mais les migrants, on en parle dans la mer, mais vous remplacez mer par montagne. C'est exactement pareil, cette rencontre, elle vous a particulièrement marqué, elle l'a aussi particulièrement marqué.
Alors elle m'a marqué, elle a marqué aussi les membres de la délégation, elle était 12 de la délégation des Hautes-Alpes, le cardinal Aveline avait accepté d'élargir un peu, c'était un temps de prière pour les migrants morts en mer, donc accepter de l'élargir pour les migrants morts en montagne. Et alors j'ai effectivement glissé à deux reprises au pape qui pouvait remplacer à chaque fois le mot mer par le mot montagne, et ça c'était tout aussi dramatique, même si les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. On est à des milliers de morts et des dizaines de milliers en Méditerranée, dans la Manche. Nous, c'est une petite dizaine, mais pour les Hauts-Alpins, ça a vraiment marqué une étape. Alors, pour Marseille, pour moi, ça a permis de mettre des mots, de réfléchir, de prendre de la hauteur, en réalité, sur ce que l'on vivait. Et c'est après ce voyage à Marseille, avec les solidaires, qu'il m'est venu l'idée, en fait, d'écrire quelque chose. Au début, je voulais le faire sous forme d'une lettre pastorale. Une lettre pastorale, c'est un écrit d'un évêque pour guider le peuple de Dieu dont il a la charge. Mais dès que ça a dépassé 50 pages, je me suis dit, là, c'est plus une lettre pastorale, ça va être un bouquin. Voilà. Et puis, je me suis dit, ça peut intéresser d'autres personnes que simplement les Hauts-Alpins, d'où l'idée de ce livre. Voilà.
Dans ce livre, justement, vous donnez aussi une grande part à Blessing Matthews, cette femme exilée qui a été retrouvée noyée dans la Durance, dans le Briançonnais. Vous avez aussi rencontré ses sœurs, notamment Happy.
Pas
vous personnellement, mais en tout cas, vous en parlez de sa sœur Happy. Ça aussi, c'est quelque chose qui marque aussi un tournant dans votre parcours d'évêque.
Alors, je ne sais pas exactement si j'ai rencontré sa sœur Happy, parce que pendant la sépulture, j'avais obtenu de la préfète de l'époque qu'elle donne des laissez-passer pour des membres de la famille. Oui. Mais je ne me rappelle pas qui c'était exactement. Quoi. Oui. En tout cas, ce qu'on a découvert quand ils sont arrivés, il y avait un pasteur évangélique. Les solidaires pensaient qu'elle était catholique. Et donc, la commission de la pastorale des migrants, qui m'entoure sur ces sujets-là, avait jugé important que ce soit l'évêque qui préside, de manière à marquer un peu l'engagement de l'Église par rapport à cet événement, parce que pour les Hauts-Alpins, les solidaires Hauts-Alpins, ça a été un événement choc, en réalité. C'était la première qui décédait dans nos montagnes. Alors, les morts aux montagnes, il y en a dans, j'allais dire, dans toutes les vallées, dans toutes les familles, mais ce sont des morts de... C'est les morts parce que la montagne est belle, mais elle est rude, si vous voulez. Et on l'accepte. Tandis que là, ce sont des morts par des décisions politiques. Et ça, c'est inacceptable, parce que une des caractéristiques de la haute montagne comme de la haute mer, c'est qu'on ne laisse pas mourir les gens en montagne, on va les chercher. Donc ça, ça a été vraiment un choc pour les Hauts-Alpins. Un choc pour moi aussi de voir cette église Sainte-Catherine à Briançon, qui était noire de monde hein, et noire de solidaires. Ouais. Et de voir un peu comme une espèce de colère rentrait, vous voyez. Ils avaient fait le choix de ne pas en faire à cette époque-là, à ce moment-là, une tribune politique pour vraiment être dans le deuil à ce moment-là. Mmh. Et c'était une des sépultures, j'en ai célébré des centaines comme prêtre, et c'est une des sépultures qui m'a le plus marqué, vraiment.
Mmh. En tant qu'homme de foi, en tant qu'homme d'église, est-ce qu'on peut être parfois en colère par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui à la frontière, à toutes les frontières de France, et je vais même élargir au niveau international?
Oui, parce que c'est un phénomène, la migration, c'est un phénomène international. Sur tous les continents, le sud monte vers le nord. Donc on peut être effectivement en colère parce que, en fait, on ajoute du malheur au malheur et on ne règle pas du tout les questions. Donc moi, je m'associe à cette colère des personnes, effectivement. Mais ma mission à moi, elle n'est pas d'apporter des solutions. D'abord parce que je ne sais pas s'il y a des solutions en réalité. Pour moi, la seule solution, c'est d'être saint là où le bon Dieu nous a placés, et donc de traiter les gens humainement. Et je crois qu'en disant ça, on peut être d'accord avec tout le monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire qu'il ne fallait pas les traiter humainement. Sauf que la politique fait que très souvent, on ne les traite pas humainement, quoi. Et donc, effectivement, donc je m'associe à cette colère-là. Ma première mission, elle est de soutenir un peu tous ceux qui sont sur le terrain. Voyez. Alors, c'est un peu délicat pour moi de parler de ce livre dans les Hautes-Alpes parce que j'ai l'impression de tirer la couverture à moi, voyez. Alors que ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Par exemple, oui. On voit les à Briançon, que ce soit les gens de Tous Migrants, ou à Gap, les gens du réseau Hospitalité, ou par exemple le vicaire général du diocèse, qui est le curé de Briançon, c'est lui qui est en première ligne hein, sur Briançon. Mais c'est vrai qu'il m'a semblé important, la calotte d'évêque, ça pèse encore. Quoi. Et une de mes missions, donc, c'est soutenir les solidaires. Deuxième mission, je pense que c'est aussi de former les personnes. Parce que sinon, comme je l'étais auparavant, on se laisse déformer par, et aujourd'hui malheureusement, par les réseaux sociaux. Où il n'y a pas de journalistes qui font le travail que vous faites, hein, de réflexion, de recoupement, de recherche des sources, etc. Et donc l'objectif, il est aussi de former les gens. Et donc la première partie de mon livre, vous avez peut-être vu, c'est un témoignage un peu de ce qui s'est vécu. Tout ça pour rendre hommage un peu à ce travail exceptionnel d'accueil dans les Hautes-Alpes. Puis la deuxième partie, plus un aspect avec des petits chapitres assez courts, assez faciles à lire, j'espère, de réflexion sur le fond, pour aller au fond des choses.
En tout cas, je vous le recommande parce qu'au-delà de l'évêque du diocèse de Gap-en-Bray, eh bien, qui témoigne, c'est aussi un homme, un Hauts-Alpin, qui témoigne aussi la situation de son département. Ces exilés qui passent par nos montagnes de Monseigneur Xavier Mal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin du côté du parc diocésain, donc chez vous, hein, du côté de Gap, pour cette journée mondiale des réfugiés. Je vous dis à très bientôt, Monseigneur.
Merci, au revoir.
Et Jean-Phil, nous sommes toujours du côté du parc diocésain à Gap qui accueille aujourd'hui, vous l'entendez, on est en train de se mettre en place la journée mondiale des réfugiés. Ce matin dans le 8:30, j'accueillais Coralie Carvin qui est la directrice du CADA de Gap, du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Elle le disait, il y a 80% de demandes d'asile qui aboutissent et 20% de personnes qui sont débouté. Arthur, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de ces personnes qui sont déboutées, qui n'ont pas obtenu la demande d'asile. Actuellement, vous avez fait appel de cette décision. Vous êtes arménien.
Oui.
Mais vous venez d'une région qui est au cœur d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est la région du Haut-Karabakh, avec un conflit qui dure depuis une centaine d'années, qui s'est cristallisé ces dernières années. Vous êtes arrivé en 2023, si je ne me trompe pas.
Hein. Oui, je suis arrivé en France le 24 avril 2023.
Vous m'avez dit tout à l'heure, je me souviens de cette date.
Je me souviens de cette date parce que c'est le jour du génocide arménien à Turquie en 1915.
Pourquoi vous avez fui cette région du Haut-Karabakh? Vous n'êtes pas le seul, 120 000 personnes ont fui en 2023 cette région.
parce que nous étions attaqués par l'Azerbaïdjan, le pays qui est notre ennemi dans la région, et nous n'avons pas d'autre choix. Ou on doit rester là-bas et être le même, avoir la même situation comme 1915, ou on doit quitter. C'est ça la question. Nous nous souvions bien qu'est-ce qui s'est passé en 1915. Et ça, notre peur. J'ai participé à la guerre comme un homme qui habite à Haut-Karabakh. Et j'ai vu comment il est passé. Ce n'était pas la guerre entre deux ennemis. C'était un petit génocide.
Un petit génocide. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous attaquez l'ennemi qui a armé avec bonne l'arme, que les pays qui aident cette personne, aident cette armée. Par exemple, ils utilisaient les armes que nous n'avons pas entendues jamais. Et on comprend que c'est le même temps, il y a les preuves que pendant ces guerres, il a utilisé les islamistes. J'étais là-bas, j'ai entendu. Je n'ai pas vu parce que c'était la nuit, mais j'ai entendu comme il crie à la Akbar. Et c'était ce que j'ai entendu personnellement.
Vous avez eu peur pour votre famille, je ne l'ai pas précisé. Vous êtes venu avec votre femme et vos deux filles, hein, qui ont 12 ans, qui sont scolarisées sur Gap. Vous avez eu peur pour elles?
Oui. Pourquoi? Ce n'était la première fois que je suis devenu terre d'asile. Je suis né à la capitale de la région Azerbaïdjan de l'Union soviétique. Et ma femme aussi, elle est née dans la région azerbaïdjanaise de l'Union soviétique. Et c'est la deuxième fois qu'on quitte notre région. C'est la première fois, c'est à l'époque de la chute de l'Union soviétique. Et c'est la deuxième fois qu'on perd tout ce qu'on a. Seulement pour la première fois, c'était avec ma famille, avec mon père, ma mère et trois sœurs. Maintenant, c'est le même. J'avais 11 ans quand je suis devenu terre d'asile première fois. Maintenant, mes enfants, dans le même âge, ils deviennent terre d'asile.
C'est le même parcours.
Oui.
Vous n'aviez pas d'autre choix que de partir.
Oui. Comment je... rester là-bas, ça veut dire que être tué, il n'a pas de choix.
Votre demande d'asile a été refusée parce que l'Arménie ne fait plus partie des pays qui ne sont pas dans la liste des pays non sûrs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, je l'ai dit, hein, il y a une procédure en appel pour votre demande d'asile, mais qu'est-ce qui vous attend si demain vous retournez, vous devez retourner là-bas? Est-ce que vous y retournerez?
Non. J'ai dit ma femme et mes enfants que j'ai jamais retournerai en Arménie. C'est pas comment c'est vous imaginez. J'ai servi en armée, j'ai travaillé pour le ministère de la justice, j'ai survécu pendant la guerre, et après quand je suis venu en Arménie, le gouvernement arménien il a pris une décision selon laquelle mon passeport, ce n'est pas la preuve de ma nationalité. Pour avoir nationalité, je dois présenter les papiers et avoir la nationalité arménienne. Ça veut dire que ce que j'ai fait jusqu'à 2020, il faut oublier. Vous devez oublier ce que vous avez fait. Et maintenant, vous devez commencer par zéro. Et en plus, vous avez 45 ans. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu quelqu'un qui peut trouver quelque travail en Arménie avec en ayant 45 ans.
Comment se passe votre vie en France? Comment se passe votre vie à Gap? Je l'ai dit, vos filles sont scolarisées. Vous m'avez dit juste avant, elles travaillent très bien. Elles sont très bonnes à l'école. Et vous, comment se passe votre vie?
Je suis très motivé. Et quand je suis venu en France, ma priorité, c'était étudier le français. J'ai participé partout. Généralement, j'ai étudié le français avec le professeur de français du CADA. Mais en même temps, j'ai participé pour améliorer mon compréhension orale, production orale, pour améliorer mon lecture, l'écriture. J'ai fait tout. Je suis bénévole dans 3 organismes. J'ai participé au cours de français à la Croix-Rouge, au secours catholique. J'ai fait des formations. J'ai fait 5 formations. Et ils ne sont pas très longs. Chacun dure 15 heures, 14 heures. Mais j'ai fait 5 formations. J'ai obtenu les attestations. Je suis allé pour trouver quelque travail. Pour l'instant, je travaille. C'est long, 4-6 jours. Mais je travaille chez un particulier. Et c'est total, c'est 20 heures, 22 heures. Ça dépend du temps par mois. C'est pas suffisant. J'ai parlé avec notre avocat, avec les juristes. J'ai parlé et j'ai dit que je voudrais présenter mes papiers pour avoir titre de séjour pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Mais ils ont dit que selon la loi, vous pouvez, vous avez le droit de présenter votre papier. Mais selon la loi, vous devrez habiter en France depuis 5 ans. Les enfants devraient aller à l'école depuis 3 ans, il y a quelques...
Il y a beaucoup de critères.
C'est ça.
Merci beaucoup, Arthur, d'avoir témoigné au micro d'Alpin de votre situation. Hein. Je vais rappeler que vous venez du Haut-Karabakh, cette région entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et que vous êtes donc demandeur d'asile qui a été débouté sous procédure d'appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Sur Alpin.